Bonjour à toutes et à tous, littérature au programme du MAG aujourd'hui, j'accueille pour mon plus grand plaisir Nathalie Bauer. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes romancière, je vous connais parce que vous êtes déjà venue dans nos studios, c'était à l'occasion de la sortie d'un roman il y a quelques années de ça qui s'appelait Des garçons d'avenir, un roman d'ailleurs qui vous avait valu une sélection au prix Femina.
Oui.
Je dis pas de bêtises jusque là.
Non, c'est,
bon,
c'est exact.
Très bien, je vous accueille aujourd'hui Nathalie, à l'occasion de la sortie de votre sixième roman, un roman qui s'intitule « Qui tu aimes jamais ne perdra ». C'est aux éditions Philippe Rey, cet ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, mais je vous reçois aujourd'hui parce que vous serez demain à la Maison du Livre pour une rencontre organisée par la Maison du Livre, bien sûr, mais aussi l'association Livre Ensemble, et puis des lecteurs, j'imagine, et du public qui sera invité à vous rencontrer, et peut-être aussi lire des passages de « Qui tu aimes jamais ne perdra », Nathalie, c'est ça ?
Oui, il y aura certains lecteurs, d'après ce que j'ai compris, de l'association, qui liront des passages de chaque chapitre.
Ça sera à 18h30, hein,
oui.
À la Maison du Livre. Alors, je ne dis pas séance de dédicace, mais enfin bon, rien n'empêche qu'il y en ait. Des dédicaces.
Oui, après la rencontre, en général, il y a toujours une petite dédicace pour ceux qui ont envie.
Alors, Nathalie Bauer, vous êtes romancière, sixième roman. J'indique aussi tout de suite, ça a son importance à travers ce livre que j'ai entre les mains, que vous êtes doctorante en histoire médiévale. Pareil, j'attends une correction peut-être.
Non, docteur en histoire médiévale.
Voilà. Et vous êtes servi de vos connaissances dans ce livre de façon beaucoup plus sympathique. Hein. On n'est pas là dans un cours d'histoire du Moyen-Âge. Hein. Je rassure tout le monde, tous ceux qui nous écoutent évidemment. Et puis, j'indique aussi, Nathalie, que vous êtes traductrice d'italien.
De littérature italienne.
De littérature italienne, tout à fait. Donc les lettres, quelles que soient les langues ou presque, c'est votre domaine. Qui tu m'aimes jamais ne perdra, que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas fini, Nathalie, je vous avoue. Il y a un peu moins de 300 pages. Hein. C'est un roman d'amour ?
C'est un roman d'amour au pluriel, si on peut dire, parce que c'est plusieurs sortes d'amour. En fait, c'est l'histoire de deux personnages. Donc, ça commence au 1er siècle. Des poètes, un homme et une femme, qui se jurent de se retrouver après leur mort, parce qu'ils ce sont des disciples de Pythagore qui pensaient que après la mort, les âmes se réincarnaient dans d'autres corps et que et donc eux-mêmes qui apprécient cette théorie pensent qu'ils vont pouvoir se retrouver dans une existence successive ou dans plusieurs existences successives et se demandent d'ailleurs s'ils arriveront à se reconnaître. En fait, ça part de ça. Est-ce que nous nous reconnaîtrons si nous nous retrouvons dans une autre vie ? Et donc, on va voir ces personnages d'époque en époque, donc du 1er siècle jusqu'à la guerre de 14, puisque le dernier chapitre se passe pendant les derniers jours de la guerre de 14, qui vont se retrouver à plusieurs époques et on se demande chaque fois s'ils vont pouvoir se rencontrer. Ils se rendent compte, mais s'ils vont pouvoir se reconnaître et enfin vivre paisiblement.
Et à chaque fois, des façons de vivre l'amour différentes.
Voilà, il n'y a pas seulement l'amour charnel.
Ouais.
Donc il y a aussi l'amour spirituel et puis l'amour fraternel, parce qu'il y a des jumeaux qui sont un frère et une sœur. Et donc c'est sur l'amour, surtout l'amour inconditionnel qui est vraiment le véritable amour et que ces êtres expérimentent d'histoire en histoire.
Alors, on est dans un roman d'amour au pluriel, hein, comme vous nous l'avez dit, Nathalie, mais roman aussi historique, puisqu'on traverse les époques. On commence, au moment de Néron, dans les années 60 après Jésus-Christ, hein, quelque chose comme ça, pour le début du livre. Ensuite, on se déplace au Moyen-Âge, 14e siècle, début du 14e siècle, on doit être quelque part entre l'Allemagne et la Suisse.
Dans la Suisse actuelle.
Oui. La Suisse actuelle, donc merci beaucoup. Et derrière, quel pays ou quelle époque vous nous permettez de revivre ? Parce que c'est bien ça aussi, on va en parler.
Oui, alors donc la Suisse, c'est en 1322.
Ouais.
Ensuite, le chapitre suivant, c'est dans le siècle d'or à Amsterdam, donc au XVIIe siècle. Après, on se retrouve à la fin du XVIIIe siècle en Russie.
Mmh.
Et le chapitre suivant en Angleterre, au milieu du XIXe siècle. Et après, comme j'ai dit, sur le front de la guerre de 14, en octobre, en fait, dans les derniers jours, en 1918, Les derniers jours des comptes de combat.
Alors, on n'est pas du tout dans un travail universitaire quand on lit « Qui tu aimes jamais ne perdra », Nathalie. Mais enfin, les amateurs d'histoire sont servis hein, à travers ces différentes périodes que nous permettez de revisiter. Vous y êtes allé. Enfin, vous y étiez, Nathalie. Non, mais c'est vrai,
oui.
C'est très bien fait et très, très informé.
C'est-à-dire, comme vous avez dit, j'ai une formation d'historienne, donc j'ai un doctorat d'histoire médiévale, mais je n'ai pas continué dans la carrière universitaire. Ouais. En fait, pendant mes études, j'ai commencé à être lectrice de littérature italienne pour des éditeurs, oui. En éditeur. Et ensuite, on m'a demandé de faire de la traduction littéraire et ça m'a beaucoup plu et parce que ça correspond bien à mon caractère un peu solitaire. Et donc, j'ai préféré tenter dans cette voie-là plutôt que la carrière universitaire qui demande un autre genre d'investissement, mais qui me correspondait un peu moins. Mais j'ai gardé l'amour de l'histoire et ce qui m'intéresse, ce que j'aimais beaucoup quand j'ai préparé ma thèse, c'était les recherches.
Ouais.
Et fouiller et essayer de comprendre ce qui s'était passé. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment c'est le résultat du passé. Et si on ne connaît pas le passé, on a du mal à comprendre le présent. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit tous les jours dans les actualités. On se rend compte qu'il n'y a pas eu de leçons tirées du passé et que l'histoire revient comme un éternel recommencement. Et donc, voilà, ce livre m'a demandé beaucoup de travail donc, d'écriture et aussi de recherche, ouais. Puisque dans chaque chapitre, j'essaye de reconstituer vraiment le contexte de l'époque. Et donc, c'était très agréable. J'ai fait des recherches pour chaque période.
Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous citez un nom, une rue, un lieu, tout a existé.
Hein, oui.
C'est bien ça.
Oui, tout est en fait.
Les adresses.
J'ai tout vérifié. Oui,
tout est juste. Tout est juste.
J'ai travaillé sur des plans. Alors notamment pour le chapitre qui se passe à Amsterdam, j'ai travaillé avec des plans d'Amsterdam au XVIe siècle, donc avec les noms des rues, avec les noms des monuments. J'ai lu beaucoup de textes parce qu'il faut resituer. En fait, c'est tout un tissu qu'il faut broder, enfin plutôt tisser. Avec à la fois la mentalité des personnages, mais les costumes, les habitudes, la gastronomie. On n'a pas l'habitude de c'était des, notamment
les façons de vivre,
oui,
simplement.
Façons de vivre, simple. Sans électricité, c'est tout à fait différent. Donc il faut resituer le contexte et ça, j'aime beaucoup ça.
Ah bah,
et
puis à lire, c'est très agréable. Pour ceux qui sont un petit peu amateurs d'histoire et de connaissances, en plus pour des périodes qu'on ne connaît pas forcément très très bien hein, pour la plupart. D'ailleurs, ces époques sur lesquelles vous reveniez à travers cette histoire d'amour au pluriel plutôt, comment vous les avez choisies? Est-ce que c'est une des clés de compréhension du roman? Il y a quelque chose à comprendre derrière ça ou c'est un goût personnel? L'Amsterdam du début du XVIIe, vous adorez. Pareil, l'époque de Néron, c'était votre époque préférée.
En fait, le livre est né d'une image que j'ai eue. En fait, je commence à écrire quand j'ai des images qui se forment dans mon esprit qui vit. Et j'avais une image qui se passe d'une femme du Moyen-Âge. Et donc, j'ai pensé petit à petit à une histoire qui se passait dans le Moyen-Âge et dans le bas Moyen-Âge, qui est une période que je connais bien, puisque j'ai fait ma thèse sur le bas Moyen-Âge.
Le bas Moyen-Âge, c'est la fin du Moyen-Âge.
Oui, le 14e et 15e. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour le siècle d'or hollandais, qui est une période d'une extrême richesse, au point de vue artistique, avec les plus grands peintres, et une période extrêmement riche. Et puis, en Hollande, il s'est passé, au XVIIe siècle, c'était un peu la Jérusalem du Nord, puisque tous les Juifs qui étaient chassés d'Europe ont été accueillis à bras ouverts et ont vécu une liberté qu'ils ne connaissaient plus depuis la fin du XVe. Et ça a été cette ouverture d'esprit et a aussi contribué à la richesse de la culture des Provinces Unies, puis s'appelait les Provinces Unies à l'époque. Et donc c'est une période qui me fascine. Ensuite, c'est un livre aussi qui rend hommage à la littérature. Et donc je tiens à rendre hommage à la littérature parce que la littérature m'a énormément apporté au point de vue personnel. Dès l'enfance, on a eu la chance dans ma famille, on aimait les lire, on lisait beaucoup. J'étais assez introvertie et surtout, j'ai l'impression que j'avais pas du tout le mode d'emploi pour comment est-ce qu'on vivait, comment est-ce qu'on faisait. Et la littérature m'a apporté des réponses. Elle a aussi comblé des angoisses. Et donc, je rends toujours hommage à travers mes livres à la littérature et notamment dans la partie qui se passe en Angleterre au 19e siècle. C'est un hommage à la littérature anglaise que j'aime énormément. La partie qui se passe en Russie, à la littérature russe, qui est une de mes littératures préférées. Mais je le rends hommage pas du tout de façon intellectuelle. Mais j'essaye de restituer un petit peu l'image et l'émerveillement que j'ai envie de restituer. Après, je ne sais pas si j'ai réussi, mais l'émerveillement que j'ai pu éprouver en lisant tel ou tel livre.
Alors, est-ce que ça rejoint ce que j'ai envie de vous dire maintenant? Parce que moi, je n'ai pas encore complètement terminé votre livre, Nathalie. Mais, et puis je suis loin d'être expert en littérature, quel que soit le domaine. Mais enfin bon, un petit peu de... J'ai lu quelques auteurs anciens romains, latins si vous préférez. Et pareil pour les littératures du Moyen-Âge, même si ça fait longtemps. Et j'ai le sentiment, je suis même sûr, c'est pour ça que je me lance, c'est que chacune des parties, le style d'écriture correspond au style d'écriture de l'époque. C'est-à-dire que vous écriviez, alors pas en latin quand même, hein, mais c'est ces formes que j'ai bien connues, moi, des petits paragraphes numérotés. Oui. Ouais, on est dans ce qu'on peut lire avec les auteurs romains, et pas seulement à cette époque-là. Derrière, la partie sur le Moyen-Âge, alors là, c'est l'inverse. Ça reste facile à lire parce qu'heureusement, vous n'écrivez pas exactement comme écrivaient les auteurs à cette époque-là, on aurait bien du mal à comprendre, il n'y aurait pas de ponctuation, les mots seraient à peine séparés, enfin, tout ce qu'on veut. Mais le style correspond au style d'écriture, notamment des moines à cette époque-là.
C'est-à-dire que j'ai voulu donner pour chaque chapitre une patine de... Mmh. On a l'impression d'être vraiment plongé dans ces histoires et dans ces époques-là, mais pas par jeu, pas de façon intellectuelle, mais uniquement parce que la langue modèle la pensée. Ouais. Le vocabulaire modèle la pensée. Et donc, si on s'exprime d'une certaine façon à une époque, on pense d'une certaine façon à cette même époque. Et si on s'exprime avec d'autres mots à notre époque, on pense aussi d'une autre façon. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, il est difficile de lire des textes anciens, parce que justement, ça ne correspond pas non seulement à leur vocabulaire, mais aussi à leur façon de penser. Et donc... C'est pas du tout une coquetterie, c'est vraiment pour essayer de me remettre à la place des personnages, parce que quand on écrit des histoires, et c'est un livre romanesque, oui, c'est très romanesque, il faut absolument se mettre à la place des personnages pour pouvoir les comprendre, parce que il faut qu'ils restent toujours plausibles. Et à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qui est magnifique quand on écrit, c'est qu'à un moment donné les personnages prennent l'avantage, prennent le dessus sur vous, et on les suit. Ça arrive assez tard dans l'écriture, mais ça arrive, oui. et c'est peut-être pour ça aussi qu'on continue d'écrire.
Qui tu aimes jamais ne perdra, c'est le titre de ce roman signé Nathalie Bauer que je reçois aujourd'hui dans nos studios de CFM Rodez. Je rappelle que Nathalie, vous serez demain soir à 18h30 à la Maison du Livre pour une rencontre avec des lecteurs organisée par la Maison du Livre de Rodez et par l'association Livre Ensemble. Rencontre qui vaudra aussi la lecture de passage de votre roman par des lecteurs, c'est ça si j'ai bien compris?
Oui, c'est
Nathalie.
Ça, oui.
Ouais, oui. Un moment agréable de se voir lu par d'autres.
Non, mais c'est très agréable. Surtout, ce qui est amusant quand on rencontre des lecteurs, c'est de voir ce qu'ils ont pensé du livre, mais pas seulement s'ils ont aimé ou pas, mais c'est que, en fait, on arrive dans un livre un peu comme dans une auberge espagnole avec son bagage. Et donc, chaque personne voit dans quelque chose dans un livre qu'on n'a peut-être pas forcément mis.
Ouais, mais c'est ça qui est... Avec le vôtre, il y en a un paquet de choses, à mon avis, à voir. Et je suis sûr que je vais le relire. Est-ce que, non, alors, le terme roman à clé, c'est pas super, mais enfin, est-ce qu'il y a un peu de ça quand même?
Roman clé, non, enfin, parce qu'à partir de cette histoire de la transmigration des âmes, mais qui est traitée vraiment de façon romanesque, c'est pas du tout un message. Moi, j'aime. Pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi ce thème? C'est parce que je suis incapable de faire le deuil des gens que j'aime, ou des animaux que j'aime. pour moi, je ne peux pas considérer qu'ils sont morts et ils sont toujours présents en moi. Et donc, cette incapacité à faire le deuil, malgré diverses psychothérapies et psychanalyses dans mon existence, qui m'amène à dire que peut-être que la mort n'existe pas, j'ai voulu être traitée de façon romanesque et inventer des histoires à partir de ça. Et l'idée de pouvoir retrouver les gens que j'aime, non seulement maintenant dans mon cœur, mais aussi dans d'autres vies, je trouve que c'est quand même très agréable. Ouais.
Alors, je parlais de roman à clé parce que, par exemple, pareil, j'ai pas fini le livre, hein, donc j'aurais peut-être l'explication par vos propres mots dans ce roman, mais par exemple, il y a ces fameux corbeaux, oiseaux noirs. Moi, je suis au troisième grand chapitre, troisième grande époque. À chaque fois, il y a une référence au corbeau, c'est le type d'oiseau noir. Et pour l'instant, j'ai pas encore compris s'il y avait une signification, une idée derrière dans le roman.
Mais alors, les corbeaux sont, enfin, les corvidés, parce qu'il y a des choucas, il y a des corneilles.
Ouais, les choucas, on les connaît, Rodez.
Ce sont des freux, enfin, sont présents dans chaque chapitre et même dans le prologue, puisque le personnage principal du prologue s'appelle Corvus.
Oui, voilà, Corvus.
C'est son
corbeau.
Surnom, que souvent on appelait pendant l'époque romaine. Chaque personne avait un surnom et le surnom était souvent donné par des caractéristiques physiques. Et donc, ce garçon avait les cheveux très noirs. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Corvus. Il y a eu plusieurs Corvus dans la littérature latine. Mais donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi les corbeaux? Parce que les corbeaux sont des animaux de légende. Ils sont très présents dans les mythologies, notamment dans la mythologie du Nord. On les accompagne.
Ah, ouais, ils ont peut-être là des aspects plus bénéfiques que dans nos mythologies ou nos références à nous en France. Parce que le corbeau, ça n'a pas une bonne image.
Mais récemment, ils ont une mauvaise image récemment, dans les derniers temps, parce que ce sont des oiseaux qui ont été accusés donc, de se nourrir de chair humaine et aussi de piller les récoltes, les semis. Mais au Moyen-Âge, à l'époque romaine, déjà, c'était des oiseaux qui étaient des oracles, puisqu'on pouvait lire les présages.
Oui, les augures.
Des augures, pardon, dans leur vol, et suivant s'ils volaient de droite, à gauche, etc. Et puis, ce sont des animaux qui accompagnaient Odin, qui est un dieu scandinave. Et on dit dans la mythologie que les corbeaux sont capables de voir d'un seul coup d'œil le passé, le présent et l'avenir.
Et donc,
l'oiseau, d'accord. C'était l'animal typique,
voilà, l'explication,
l'animal qu'il fallait,
dans ce livre, très bien. Et d'ailleurs, ces oiseaux que l'on voit sur la couverture de votre livre, Nathalie Bouer, je m'arrête dessus parce qu'elle est magnifique cette couverture.
Oui,
c'est une peinture, qui sait. Magnifique.
Alors, c'est un tableau d'un peintre russe qui s'appelle Andrei Remnev, qui est un peintre actuel. C'est un tableau qui est récent, de 2016.
Alors, pourtant, je rassure ceux qui ne sont pas très art contemporain, c'est pas des bulles et des lignes.
C'est de l'art figuratif. Et ce peintre a peint des icônes autrefois. Enfin, il a peint des icônes pendant une certaine période et je trouve qu'il a gardé ce style des icônes et de. Le doré aussi, il utilise beaucoup le doré dans sa peinture. Et c'est une femme qui dort. Et je trouvais que le rêve a une dimension très importante dans le livre. Et donc, j'ai été touchée par cette peinture.
Alors, ce livre, on a peut-être un petit peu insisté sur l'aspect historique, travail, mais qui est pas le... Voilà, je vous rassurer tous ceux qui vont vous lire. Pas de problème, ça se lit très facilement. On est dans des histoires d'amour, mais dans un environnement, des décors qui sont parfaitement justes historiquement, Nathalie. Mais pour ceux qui s'en foutent, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis, toutes les références qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a des références dans la littérature, parce que, comme je vous ai dit, c'est un livre qui rend hommage à la littérature. Peu importe qu'on les connaisse ou pas, c'est pas du tout l'important. C'est pas du tout un livre qui se veut intellectuel. C'est ceux qui connaissent ces références les retrouveront et ça leur fera peut-être plaisir, mais c'est pas un ressort de l'histoire. L'histoire pourrait très bien se dérouler sans ces références-là. C'est juste un petit clin d'œil que j'ai voulu ajouter.
Alors ce roman, Nathalie Bauer, Qui tu aimes jamais ne perdra, je rappelle son titre, c'est votre sixième roman. Donc on a compris que bon, bah, c'était pas venu comme ça un beau matin, qu'il y a eu beaucoup de travail. Justement pour qu'on se rende compte, cet ouvrage, vous, là nous il est publié depuis le début d'année 2023, là, il y a quelques semaines.
Ouais.
Vous, vous avez travaillé dessus combien de temps?
J'ai travaillé 4 ans sur ce
4
livre.
4 ans, ah ouais, mais ça m'étonne pas.
Je travaille 4 ans parce que d'abord j'écris très lentement et puis l'écriture était très difficile et il y avait aussi des périodes de préparation, de recherche. Et puis comme je suis traductrice littéraire, j'ai également beaucoup de travail en traduisant de la littérature italienne et parfois je suis obligée de m'arrêter, et voilà, ce qui est un peu frustrant, mais bon, c'est ça aussi hein, qui est... Un livre, de toute façon, je pense que le temps est toujours bénéfique à un livre parce que ça lui laisse le temps de lever, si on peut dire. Ça lui laisse le temps d'exister et ça permet aussi à l'auteur d'avoir du recul et de pouvoir comprendre si certaines parties sont plus ou moins justes ou pas. Et effectivement, quand j'ai relu mon livre, j'ai jeté des choses et j'en ai réécrites d'autres à la place.
Alors Nathalie, c'est votre sixième roman, hein, Qui tu aimes jamais ne perdra. J'ai indiqué au début de notre entretien que vous aviez été sélectionnée pour un prix Fémina en 2000 et quelques années, je ne me rappelle plus.
En 2011, j'étais finaliste du prix Fémina, oui.
Voilà, donc vous avez été entre guillemets, excusez-moi, repérée par les grandes maisons d'édition parisiennes, ceux qui suivent de près la littérature en France, dans notre pays. En plus, c'est vrai qu'en France, on publie beaucoup. Il y a des milliers, milliers de livres qui sortent chaque année. Donc difficile de se distinguer, de se faire un petit peu remarquer, notamment, excusez-moi Nathalie, quand on est écrivain... en Aveyron. Non, mais c'est peut-être pas le truc le plus pratique hein, pour se faire connaître et faire parler de soi. Mais, Nathalie, cet ouvrage vous a valu ces derniers temps deux très bons papiers dans deux grandes références des quotidiens français. C'est le journal Libération et le journal Le Monde qui ont consacré une chronique, et pas une petite d'ailleurs, notamment dans Le Monde, à ce livre.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un très bel article de véritable, dans Le Monde, un véritable, véritable critique littéraire.
Voilà, donc c'est des gens qui connaissent, qui savent ce qui se fait à côté, par ailleurs, dans quel cadre général s'inscrit un ouvrage. Bon, ils savent juger les choses, quoi. Mieux que moi. Si. Donc oui, ça doit faire plaisir comme ça de se retrouver dans Le Monde, Libération.
Oui. Oui, bien sûr, ça fait plaisir parce qu'on écrit pour être lu. Hein. Je pense que écrire et puis mettre de ce qu'on a écrit dans un tiroir, enfin, c'est pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Pour certaines personnes, ça peut en avoir, mais pas pour moi. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire, puis on écrit parce que on arrive à dire les choses que par l'écriture. C'est aussi une façon de se raconter, de raconter le monde tel qu'on le voit, tel que l'écriture aide justement à faire le point un peu et à démêler les chevaux. Et donc, je suis très contente, bien sûr, d'avoir ces beaux papiers.
Ah, bien sûr. Qui tu aimes jamais ne perdra, Nathalie Bauer. Votre roman, c'est quasiment 300 pages. On va donner le titre, le nombre exact. 297 pages. Hein, oui. Aux éditions Philippe Rey, un ouvrage qui coûte 22 € et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Et notamment à la Maison du Livre, où vous serez demain à 18h30 pour cette rencontre avec des lecteurs et puis des moments d'ailleurs de lecture de votre roman par des personnes qui viendront à la Maison du Livre, mais toutes les autres sont les bienvenues pour vous rencontrer, peut-être échanger avec vous autour de cet ouvrage. Donc c'est une histoire d'amour au pluriel, à travers plusieurs périodes, autour de la question, de savoir si l'amour est éternel ou pas, finalement.
Oui.
C'est l'idée.
Oui, c'est ça.
Bon, et alors j'ai envie de vous dire, Nathalie, parce que moi j'en suis pas encore à la fin, donc je sais pas moi à la fin. Oui, je vais avoir. Mais en même temps, le titre, Qui tu aimes jamais ne perdra, c'est pas un impératif, c'est pas la réponse à la question du livre.
Enfin, c'est une constatation, c'est-à-dire que ce titre, c'est en fait un message qui va être laissé à un des personnages dans un tableau qui va lui apparaître comme une forme de consolation. J'aimerais bien que ce livre soit un consolateur d'une certaine façon. J'aimerais que ça puisse ouvrir un horizon à des gens qui pensent que une fois qu'on est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien, et qui sont attachés à la finitude du temps. Je pense que c'est très réducteur. Enfin, pour moi, c'est une idée réductrice de la vie qui m'apparaît infinie. Et si ce roman peut donner justement, cette ouverture, je serais très contente. Et en cela, il pourrait être consolateur. Et ce message est un message consolateur dans le livre.
Eh ben, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Nathalie Bauer, d'être venue dans nos studios. C'était un grand plaisir. J'aurais bien consacré beaucoup plus de temps, évidemment. À ce livre que j'adore, hein, Nathalie, je dis pas ça pour vous faire plaisir. Bon, moi, des romans, je reçois régulièrement. Et puis, c'est vrai que bon, je fais de la radio. Donc, si vous voulez, voilà, si je fais pas des romans, si je fais de la radio, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais là, j'adore. Je l'ai commencé ce week-end. C'est vraiment, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à ne pas avoir peur, peut-être, qu'on a dit sur l'histoire, des références philosophiques. Ce sont des histoires d'amour à travers des époques qui sont très, très bien, parfaitement reconstituées. C'est un vrai plaisir. Et je suis curieux d'arriver à la fin. Mais j'y vais doucement pour apprécier. Merci beaucoup, Nathalie, parce qu'il y a beaucoup de travail, là, évidemment. Merci, votre part. Merci, Nathalie. Et je rappelle demain soir cette rencontre à la Maison du Livre, 18h30, rencontre organisée par l'association Lire Ensemble. Et par la Maison du Livre, évidemment, et vous serez présente sur place. Merci Nathalie.
Merci David.